Je propose que nous lisions ensemble ce soir quelques versets dans ce même évangile de Luc qui nous a occupés avec profit dans ces dernières journées, dans le chapitre 9, la scène de la transfiguration. Commençons au verset 28. Luc 9, 28. Il arriva environ 8 jours après ces paroles qu'il prit avec lui Pierre et Jacques et Jean et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici deux hommes, qui étaient Moïse et Élie, parlaient avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil. Et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. Il arriva, comme il se séparait de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici et faisons 3 tentes, une pour toi et une pour Moïse et une pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. » Et comme il disait ces choses, une nuée vint et les couvrit, et ils eurent peur, comme ils entraient dans la nuée. Il y eut une voix venant de la nuée, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et la voix s'étant fait entendre, Jésus se trouva seul. Et ils se turent et ne rapportèrent en ces jours-là à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Ensuite, quelques expressions dans les deux passages correspondants de Matthieu 17, le verset 2. Christ Jésus fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'était après 6 jours, et en Marc 9, verset 2 à la fin, Jésus fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent brillants et d'une extrême blancheur comme de la neige, tel qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui puisse ainsi blanchir. Ensuite la voix du ciel, verset 7 à la fin, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dans le début de l'évangile selon Jean, la parenthèse du verset 14, nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un fils unique, de la part du Père. Dans la seconde épître de Pierre, un autre témoignage qui plus sûrement encore se rapporte à cette scène. Verset 16 du premier chapitre, 2 Pierre 1, 16. Ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire, et que l'étoile du matin soit levée dans vos cœurs, jusque-là. C'est une scène merveilleuse que celle de la transfiguration, qui nous est assez exceptionnellement rapportée dans 3 évangiles, les 3 évangiles synoptiques, chacun une place particulière, et dans un sens moral particulier. Je désirais ensemble considérer quelques phases de cette scène merveilleuse, et puis si le Seigneur nous le permet, si le temps le permet, tirer pour nous des conclusions, non seulement de cette scène, parce que contempler Christ fait finalement la joie profonde du croyant, mais aussi déduire des conséquences pratiques, et on a touché quelque chose de cela dans la réunion d'hier, quelques conséquences pratiques de la conduite et des dangers que les disciples ont rencontrés en descendant de la montagne. D'abord la scène de la transfiguration. Alors elle est rapportée en Matthieu 17, en Marc 9 et en Luc 9. Matthieu, à son ordinaire, place les choses dans leur ordre dispensationnel. Il est bien important de voir la place qu'obtient la scène de la transfiguration, c'est-à-dire la gloire anticipative de Christ dans son royaume. Nous savons que le sujet de l'évangile selon Matthieu change à la fin du chapitre 11, lorsque Christ est rejeté, lorsque il ne reconnaît plus sa famille selon la chair sur la terre, qu'il sort de la maison d'Israël à la fin du chapitre 12 et qu'il va là en prenant une nouvelle place, celle de semeur pour semer la parole de Dieu. C'est la première des sept paraboles de Matthieu 13. Les six autres qui suivent sont des similitudes du royaume de Dieu, dont la forme particulière maintenant est celle d'être le royaume des cieux, parce que le royaume est le domaine, effectif ou moral, dans lequel les droits du roi sont reconnus. Le roi Christ, le Messie étant rejeté, il est maintenant dans le ciel. Le royaume de Dieu prend donc la place, la forme de royaume des cieux. C'est un royaume qui est encore en mystère. Et cela est toute importance de bien comprendre maintenant que le développement actuel du royaume de Dieu, qui est effectif, est un développement mystérieux, qui n'est pas visible extérieurement, sauf par quelques dispositions providentielles de Dieu. Et les trois premières paraboles du royaume sont celles du développement extérieur de celui-ci. Les trois suivantes, qui complètent les sept, sont le développement intérieur, ce qu'il y a de précieux pour le cœur de Christ. Et puis, il y a quatre autres paraboles qui vont donner, au cours du récit de Matthieu, quelques caractères moraux particuliers du royaume des cieux. Ensuite, et ensuite seulement, c'est l'assemblée. Au chapitre 16, et le Seigneur prend l'occasion de cette place qu'il a eue au quartier de Césarée de Philippe, où les disciples posent la question, lui-même demande ce que disaient que les hommes pensaient de lui, et Pierre répond avec la révélation que le Père lui avait donnée, en le déclarant fils de Dieu. Et le Seigneur part de là et va développer quelque chose de merveilleux qui est tout à fait nouveau, et qui pour la première fois est nommément mentionné dans l'évangile de Saint Matthieu, donc au chapitre 16, c'est l'assemblée. L'assemblée n'est pas le royaume, et l'assemblée n'est pas indépendante du royaume. On peut dire que l'assemblée est contenue dans le royaume, mais la position et le point de vue sont différents. Ensuite, au chapitre 17, c'est le royaume non plus mystérieux, ce n'est plus l'assemblée qui est essentiellement en vue, c'est un royaume d'anticipation, un royaume glorieux. Gardons bien cet ordre des choses qui est important pour nous, alors que dans la chrétienté professante et même peut-être parmi nous, la tendance serait de confondre les choses et de renvoyer l'Église céleste, dont l'appel ecclésia est d'être sortie hors du monde pour appartenir au ciel, bien que vivant encore sur la terre, bien qu'ayant un témoignage à rendre, non seulement devant les autorités spirituelles dans les lieux célestes, mais sur la terre comme témoin de Christ. Cette assemblée a sa destinée, ses affections, son but, son terme dans le ciel et pas sur la terre. Se mêler au monde et simplement méconnaître les droits de Christ sur son assemblée. Et pourtant, les droits de Christ sur le royaume sont réels. Il a l'autorité sur le monde, Satan a usurpé cette autorité, et lorsque Christ est rejeté, le Seigneur appelle lui-même Satan, le chef de ce monde, viens et n'a rien en moi, le chef de l'autorité de l'air. Voilà le drame et le mystère de ce monde qui est aujourd'hui conduit par Satan, et au milieu de ce monde, Christ, pour la joie de son cœur et pour l'accomplissement des desseins divins, sort un peuple céleste pour son nom, maintient un témoignage pour lui. Alors un jour les choses changeront, lorsque l'Église sera recueillie dans le ciel, sa place finale, selon le dessein divin. Lorsque le Messie rejeté reviendra en jugement, et en ce moment-là, le royaume mystérieux fera place au royaume glorieux, au royaume en gloire. Alors Matthieu 17 est quelque chose de merveilleux puisqu'il nous montre, entre la première mention de l'Assemblée, et quelques détails complémentaires de toute importance dans le chapitre 18, cette vision fugitive de ce que sera plus tard le royaume glorieux de Christ. Dans l'évangile selon Marc, au contraire, c'est l'ordre chronologique des faits, et nous voyons, d'après la séquence des événements qui nous sont rapportés dans l'évangile, qu'il est probable que cette scène merveilleuse de la transfiguration a eu lieu peut-être 15 jours, 2 semaines environ, avant la mort de Christ à Jérusalem. En venant à l'évangile selon Luc, qui, comme nous le savons bien, ne place plus les choses dans le cadre ordre dispensationnel ou chronologique comme les deux évangiles précédents, mais dans leur ordre moral, Alors, je voudrais essayer de bien montrer ce soir pour quelle est la place remarquable de cette scène glorieuse de la transfiguration dans l'Évangile. Nous savons que la charnière de l'Évangile, c'est le chapitre 9, le verset 51. Lorsque les jours de son assomption s'accomplissaient, le Seigneur dresse sa face résolument pour monter à Jérusalem. Sachant que l'œuvre que le Père avait placée entre ses mains, il montait à Jérusalem pour l'accomplir, quel que soit le prix qu'il devait payer pour cela. Jusque-là, et les sujets qui ont été devant nous ont certainement, à chacun, sans exception, touché nos cœurs, forment des séquences successives qui nous parlent de la venue du Fils de l'homme sur la terre, le chemin de Christ parmi les pécheurs, la voie et le chemin du salut, l'œuvre de la rédemption annoncée. À partir du chapitre 9, verset 51, c'est le départ du Fils de l'homme. Et nous avons certainement remarqué que dans le thème de la conversation du Seigneur avec Moïse et Élie, Luc, qui est le seul à nous en donner la teneur, parle de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem, et le sens de la mort, c'est le départ. Donc le Seigneur allait partir. Non toutefois sans avoir accompli l'œuvre de la rédemption. L'assomption, les jours de son assomption, c'est cet acte de puissance divine, de puissance glorieuse, qui va élever le Fils de l'homme à la droite de Dieu, dans le ciel, dans la demeure éternelle et familière du Fils, après avoir accompli l'œuvre de la rédemption, après avoir connu la mort à Jérusalem, être enseveli, ressuscité le troisième jour et glorifié à la droite de Dieu. Alors pour que cette œuvre s'accomplisse, il fallait que le Fils de l'homme vienne, accomplisse son chemin, son service parmi les pécheurs. Et cette vision de la gloire anticipative du Fils de l'homme sur la montagne de la Transfiguration nous montre, pour ainsi dire, le terme de son chemin et nous annonce l'œuvre qu'il allait accomplir à Jérusalem. À partir du chapitre 9, verset 51, jusqu'au chapitre 19, je crois que c'est le verset 20 ou autre, vous avez les trois phases successives de la montée de Christ à Jérusalem et Luc, l'évangéliste bien-aimé, place le long de ce chemin toute une série d'instructions morales qui ne se retrouvent que dans cet évangile, qui sont placées justement pour marquer les étapes de ce chemin de Christ vers Jérusalem. Puis ensuite, c'est la mort, l'ensevelissement de Christ, sa résurrection et son élévation dans la gloire. Donc Luc place les choses dans l'ordre moral. Il nous présente, comme on l'a fait remarquer hier, une des sept paroles rapportées par Luc dans son évangile est justement à l'occasion de le début de cette scène glorieuse. Dans la scène précédente, des quartiers de Césarée de Philippe, le Seigneur aussi était vu en prière. Luc 9, le verset 18. Il arriva comme il priait à l'écart, ses disciples étaient avec lui. Verset 28, maintenant il arriva environ 8 jours après ces paroles qu'il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et qu'il vint. Il monta sur une montagne pour prier, et comme il priait, son visage devint tout autre. 8 jours après, historiquement, il semble que c'était plutôt 6 jours, puisque c'est Matthieu et Marc qui nous parlent de 6 jours. Mais ici, 8 jours, c'est une intention évidente de l'esprit. 8 jours, c'est après le cycle de la semaine de 7 jours, c'est un jour de plus. C'est toujours le symbole du jour de résurrection. Luc anticipe donc les résultats célestes de l'œuvre de Christ. Il nous transporte au-delà de cette scène terrestre, de gloire terrestre, il nous transporte dans une scène d'ordre céleste. Et ceci est confirmé par la suite du récit. Donc Luc nous présente d'abord la position de cette scène de la transfiguration dans l'ordre moral des choses, ensuite le fait que Jésus priait, et ensuite que cette scène a eu lieu 8 jours après la scène précédente. Et puis Luc est aussi le seul qui nous rapporte le thème de la conversation du Seigneur Jésus avec ces deux hommes, Moïse et Élie. Bon, évidemment, il n'est pas question de rentrer dans beaucoup de détails sur ce qu'ont été l'histoire, la conduite de ces 5 hommes qui sont présentés sur la montagne. Il vaut la peine de prendre quelques moments pour toucher quelques jalons. D'abord, ces deux hommes, Moïse et Élie. Moïse symbolise la loi. Élie symbolise les prophètes. Et si l'on y pense, on a entre ces deux hommes toute la manière dont Dieu a eu des relations avec le peuple terrestre, le peuple d'Israël qu'il avait choisi d'entre les nations. Moïse et Élie ont eu un témoignage chacun à leur temps. ce qu'ils représentaient, c'est-à-dire la loi et les prophètes, ont eu cours dans les dispensations de Dieu à l'égard de l'homme et surtout à l'égard de son peuple terrestre. Mais ces choses ont eu leur cours jusqu'à Jean, le dernier de cette génération, de cette dispensation, et dès lors, le royaume de Dieu est pris de violence et les violents le ravissent. Donc il semble que le témoignage de Moïse et d'Élie ait cessé. Non. Romains 3 nous dit que ce témoignage subsiste encore aujourd'hui. À quoi ? À la justice de Dieu. Témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes, la justice, dis-je, de Dieu, envers tous et surtout ceux qui croient. Nous l'avons dit dans la prière, je suis persuadé que la plupart d'entre nous, nous savons, nous avons goûté combien le Seigneur est bon, mais y aurait-il peut-être un seul enfant, un seul jeune, peut-être moins jeune, qui ne soit pas tout à fait assuré de son salut. Nous parlions tout à l'heure avec un frère du fait que quand vous visitez un home de personnes âgées, on a l'impression que le temps n'existe plus pour eux. Ils n'ont plus la capacité de concentration de leur esprit et peut-être ont-ils laissé passer le temps. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Pas plus tard. D'abord parce que plus tard ne nous appartient pas. Luc, je le dis en passant, c'est l'évangile des aujourd'hui. On le trouve cette fois. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La justice de Dieu, elle est envers tout, elle est offerte à tous parce que l'heure de la rédemption a une puissance, une efficacité, une valeur telle que tous ceux qui veulent se placer à l'abri de l'œuvre de Christ seront reçus en grâce et en justice par Christ, par Dieu lui-même. Mais effectivement que sur tous ceux qui croient, envers tous, propitiation, sur tous ceux qui croient, substitution et expiation. Rappelons-nous en passant d'ailleurs que lorsque nous annonçons l'Évangile, nous ne pouvons pas dire à une personne inconvertie que Jésus a porté ses péchés sur la croix. Il a accompli une œuvre telle que si vous venez par la foi, en confiance et que vous vous placez à l'abri de l'œuvre de Christ, vous serez reçus et vos péchés effectivement vous seront pardonnés, pas avant. Donc Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes. Mais Moïse nous parle beaucoup plus. 40 ans de mise à l'écart dans le désert pour apprendre à se connaître, c'est-à-dire à douter de lui-même et peut-être même à manifester un semblant d'incrédulité lorsque Dieu l'envoie et qu'il refuse d'aller. Et puis 40 ans de service. Vous chercherez avec profit cet homme dont les caractères se retrouvent dans les titres que la parole lui donne. Homme de Dieu d'abord, comme Élie. 12 hommes sont nommés homme de Dieu dans l'Ancien Testament. Christ n'est pas homme de Dieu, il est Dieu lui-même. Moïse est cité avec son frère aîné Aaron comme sacrificateur, bien que Moïse soit plutôt le roi en Jéchureu, Jéchureu étant le nom poétique d'Israël, mais il est aussi nommé comme sacrificateur. Il est incontestablement intercesseur, c'est la raison pour laquelle il est nommé dans le prophète Jérémie au chapitre 15, en même temps que Samuel. Si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, je ne suis même pas sûr que j'accepterais les requêtes. Je ne pardonnerai peut-être même pas au peuple. Donc, Samuel, ceux qui intercèdent pour le nom de Christ. Aaron et Moïse parmi les sacrificateurs. Donc Moïse, pour ainsi dire, représentait le peuple vers Dieu. En même temps, il était prophète et à la fin, l'épitaphe que Dieu lui-même écrit sur la tombe, cachée aux yeux du monde, aux yeux des hommes et à Israël en particulier, lorsque Dieu lui-même a enterré son serviteur, il ne s'est pas levé de prophète en Israël qui ait connu Dieu face à face. Il était donc homme de Dieu. Psaume 90, il est signé par Moïse, homme de Dieu. Il était sacrificateur, il était prophète, il était roi à Jéchurun, mais il était aussi intercesseur. Et ce qui frappe le plus, c'est la manière dont Moïse s'est tenu à la brèche pour intercéder pour le peuple. La première fois, c'est à l'occasion du veau d'or. Et dans toutes les circonstances remarquables où le peuple d'Israël a péché, Moïse est intervenu pour sauver le peuple, le sauver de la destruction, d'une juste destruction si Dieu avait donné cours à sa justice. La seule exception qui m'est beaucoup frappée est dans l'affaire de Baal-Péor. Et vous rechercherez avec intérêt que dans les 5 circonstances qui nous sont données dans 1 Corinthiens 10, lorsqu'il est question justement de Baal-Péor, recherche en nombre 25, là, était-ce un péché à la mort ? Moïse n'a pas intercédé pour le peuple. Dans toutes les autres circonstances, il a intercédé pour le peuple. Il y a une exception. cette exception, on a touché un mot au Rioux dimanche dernier. C'est dans Nombre 20. Et le psaume 99 nous dit que le peuple d'Israël a chagriné son esprit et que Moïse a parlé légèrement de ses lèvres. Qu'a-t-il fait ? Nombre 20. Une nouvelle fois où le peuple d'Israël murmure parce qu'il n'y avait pas d'eau. Nombre 20, verset 7. L'Éternel parle à Moïse disant : Prends la verge, réunis l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher. Verset 11. Que fait Moïse ? Il lève sa main et frappe le rocher de sa verge deux fois. Il en sortit des eaux en abondance, et l'assemblée but et leurs bêtes. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron : Parce que vous ne m'avez pas cru pour me sanctifier aux yeux des fils d'Israël, à cause de cela, vous n'introduirez pas cette congrégation dans le pays que je vous donne. Ce sont là les eaux de Meriba, contestation. Ceci a certainement pesé lourd sur le cœur de ce cher serviteur de l'Éternel. Il en a reparlé plusieurs fois. Et je crois que finalement, c'est la seule prière d'intercession qui n'a sur le moment-là, et même plus tard, pas eu de réponse. Lorsque Moïse intercède pour les autres, Dieu répond en grâce et pardonne. Lorsque Moïse a intercédé pour lui-même, il avait tellement de cœur, après avoir travaillé pendant 40 ans et être à la brèche sans relâche, il avait tellement de cœur de pouvoir rentrer dans le pays. Que lui dit l'Éternel ? Deutéronome 3, verset 23. En ce temps-là, je suppliais l'Éternel, disant : Seigneur Éternel, tu as commencé à faire voir à ton serviteur ta grandeur et ta main forte. Verset 26. L'Éternel fut irrité contre moi à cause de vous, il ne m'écouta point. Et l'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Est-ce que vous ne croyez pas que cette présence de Moïse sur la Sainte Montagne est une merveilleuse réponse en grâce de Dieu à l'égard de son cher serviteur? Rien n'est plus précieux que la grâce de Christ. Et plus on avance, plus on sent qu'on en a absolument besoin dans le chemin. Cette grâce, elle a été aussi abondamment pourvu pour Élie. Élie, son histoire finalement est assez simple. Le moment le plus précieux de sa vie, où était-il ? C'était évident. La montagne du Carmel. 100 ans après la dédicace du temple, le peuple était déjà divisé en 2 tribus avec Roboam et en 10 tribus avec Jéroboam, et le peuple très rapidement plonge dans l'apostasie. Qu'a fait Élie ? Il avait une mission et une seule. Ramener le cœur du peuple vers Dieu. Tout y était. Et que fait-il sur la montagne du Carmel ? Il établit un autel de 12 pierres, selon les commandements de l'Éternel et selon le nombre des tribus d'Israël auxquelles il avait dit « Israël sera ton nom ». 12 tribus de Jacob. Non pas 2, comme à Jérusalem, ou 10, comme à Samarie ou à Tirzta, mais 12. Voilà la pensée de Dieu. Lorsque nous rompons le pain le dimanche matin, nous annonçons non seulement la mort du Seigneur, nous annonçons devant le monde et les autorités dans les lieux célestes qu'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance de l'appel, et que tous les vrais croyants sont les membres d'un seul corps, le corps de Christ. Moins que cela, ça n'est pas répondre à la pensée de Christ. Quelqu'un a dit, il semble que la foi s'épuise par un effort extraordinaire. Il était à la brèche, et pourtant Israël a répondu, puisqu'Israël a prêté la main pour frapper les 450 prophètes de Baal. Qu'arrive-t-il le lendemain ? La menace de Jézabel le fait fuir, et il y retourne en Horeb pour reporter la loi violée par le peuple. Et là, il se met à accuser Israël. La parole du prophète est triste, et la réponse de l'Éternel au prophète est encore plus triste. Parce que c'est comme si, pour ainsi dire, l'Éternel prenait Élie à ses propres paroles, lui dit « Tu veux le jugement ? Effectivement, ce peuple que tu as représenté dans son unité devant moi hier, eh bien effectivement on va le frapper. 3 instruments du jugement, Azaël, Jéhu et Élisée. » Et je pense que Élie a immédiatement senti. Et la manière dont il exécute le jugement, ou plus exactement dont il met en pratique les instructions de l'Éternel, montre que son cœur et sa conscience avaient été profondément touchés. Il renverse l'ordre des choses et commence par oindre Élisée prophète à sa place. Et puis en fait, Jéhu et Azaël ne seront même pas oints par lui, par Éliézer, même par les fils des prophètes. Est-ce qu'il y a des caractéristiques, et je crois que ça nous aidera à mieux comprendre la suite de la réunion, c'est que si Élie a eu beaucoup de peine à s'élever à la hauteur de la grâce et de la patience de Dieu, Dieu pourtant n'a pas manqué de tendresse, de sollicitude et de grâce à l'égard de son cher serviteur. Et la manière dont cet homme termine sa carrière, sa vie sur la terre, en est le témoignage éclatant. Le dernier souvenir que nous avons, c'est de ces deux hommes, Élie, Élisée qui allait prendre sa place, qui allait être revêtu d'une double mesure de l'esprit, s'il voyait son maître enlevé d'après lui, et qui vont passer dans les quatre lieux qui ont un sens profond pour Israël. Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain. Élisée était retourné en Horeb, c'est-à-dire qu'il était sorti de la terre d'Israël pour retourner au Sinaï, pour reporter la loi. Puis il était revenu en Israël pour y exercer le jugement, en particulier sur Akazia. Et là, en fait, il ressort de la terre d'Israël, et là il va être enlevé sans passer par la mort. Ces deux hommes allaient marchant et parlant. Si Élie a été essentiellement un prophète de jugement, et la plupart de ses sept miracles sont des miracles en jugement, Élisée au contraire, qui a une double mesure de l'esprit, accomplira 14 miracles, et sauf deux, ce sont des miracles de bénédiction. C'est la puissance de la grâce que nous avons en Élisée, alors que c'est la puissance du jugement que nous avons dans Élie. Et cet honneur n'a été réservé qu'à peu de personnes, deux peut-être, dans l'Ancien Testament, de connaître le repos sans traverser la mort. Et ne pensons-nous pas aussi que, comme pour Moïse, a été un honneur merveilleux que le Seigneur lui a fait l'introduire avec lui sur la Sainte Montagne, de la même manière, Élie aussi a participé à ce même honneur. Lui qui avait justement constaté la ruine du peuple, maintenant s'entretient avec son maître de la mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Disons en passant que Élie et Moïse, dans cette scène, ne sont pas revêtus de corps glorieux parce que Christ est le premier en résurrection et que Christ n'était pas encore ressuscité. La manière dont ces deux hommes de Dieu ont apparu sur la Sainte Montagne n'est pas un objet de foi pour nous. Nous savons que c'était ces personnes elles-mêmes. Sous quelle forme, nous ne pouvons pas aller plus loin de ce que l'Écriture nous dit. Trois autres personnes étaient là, assistant à la scène. Les trois disciples, Pierre, Jacques, Jean. Parmi les douze, ces trois disciples sont particulièrement désignés dans trois circonstances mémorables. La résurrection de la fille Jaïrus, la transfiguration sur la Sainte Montagne et la scène de Gethsémané. La transfiguration sur la Sainte Montagne, ils assistent à la gloire de Christ dans son royaume terrestre. Dans la résurrection de la fille Jaïrus, ils participent à la puissance de la résurrection de Christ. Et à Gethsémané, s'ils ne s'étaient pas endormis de tristesse, ils auraient eu l'honneur de participer au moins dans une faible mesure à la communion des souffrances de Christ, non pas de souffrances de l'expiation, mais de souffrances anticipatives de la croix. Et rappelons-nous que le Seigneur Jésus est jusqu'aux heures de l'expiation exclu, le vrai modèle pour chacun de nous. Plus tard, ils seront des colonnes dans l'assemblée à Jérusalem. Quelle a été la suite de la vie de ces trois hommes ? La scène de la transfiguration a certainement sur le cœur de chacun des trois exercé une pression, une puissance remarquable. Je pense que Jean 1 est bien le souvenir pour l'apôtre Jean de ce qu'il avait vu sur la Sainte Montagne. En tout cas, Pierre est aussi clair que possible puisqu'il décrit la scène dans son détail. Il nous ajoute même d'où était l'origine de la voix qui a déclaré ce qu'était Christ sur la Sainte Montagne, c'est la voix du Père, ce que les évangiles ne nous disent pas. Jacques a été le premier à donner sa vie pour Christ. Pierre, après avoir cogné son maître, qui a été redressé, relevé en grâce parfaite à la fin de l'évangile selon Jean au chapitre 21, accomplira par les forces que Christ lui fournit ce qu'il n'avait pas su faire par ses propres forces pour honorer son maître lorsqu'il a eu peur de l'opprobre dans le palais du souverain sacrificateur. Ces deux hommes aussi dissemblables que possible, Jean et Pierre, se retrouvent ensemble au tombeau, parce qu'ils étaient mus par la même affection pour le même Sauveur. Jean semble ne pas avoir eu l'honneur de donner sa vie pour Christ. C'est un autre honneur qui lui a été réservé. C'est de garder, et pour nous, c'est peut-être la chose la plus importante que ces écrits nous donnent. C'est de garder pour nous, pour les temps du déclin de l'Église sur la terre, la véritable et seule stabilité dans la personne de Christ. Lorsque tout vient à manquer, il nous reste lui-même, il nous reste Christ. La stabilité n'est pas dans les frères, n'est pas dans les principes. La stabilité est dans Christ et dans l'amour que Christ a pour son assemblée, quelle que soit la misère dans laquelle nous avons emmené le témoignage du Seigneur sur la terre. Alors ces trois hommes assistent, en s'endormant aussi. Ils se réveillent. La chose intéressante, c'est que nous avons essayé brièvement de résumer quelques caractères moraux et quelques caractères historiques de ces cinq personnes. Donc Moïse et Élie d'un côté, et de l'autre côté les trois disciples. Moïse et Élie appartiennent aux croyants de l'ancienne économie. Pierre, Jacques et Jean vont être des colonnes dans l'assemblée, ils seront même vus comme les fondements, sur les pierres de fondement de la sainte cité d'Apocalypse 21. Ils appartiennent à la compagnie céleste des saints de la nouvelle économie, puisqu'ils formeront la base même de l'assemblée à Jérusalem et seront ajoutés à l'assemblée céleste. Ce que notre frère a dit hier est très intéressant, c'est que très souvent, lorsque le Seigneur s'adresse à ses disciples, il voit en eux le symbole de ceux qui étaient avec lui, persévérant avec lui dans ses tentations. Ensuite, il voit en eux le symbole du résidu fidèle de la faim, traversant les jugements et étant introduit dans les bénédictions du royaume terrestre. Mais il y a aussi chez eux le symbole pour Christ de l'assemblée sur la terre. Alors, moralement, Moïse et Élie appartiennent aux saints célestes de l'ancienne économie, qui ne sont pas l'épouse de Christ. Pierre, Jacques et Jean sont des saints célestes de la nouvelle économie, de l'Église, l'épouse de Christ. Mais sur le plan prophétique, je crois que c'est l'inverse. Pierre, Jacques et Jean sont le symbole du résidu fidèle. Ils sont endormis parce qu'Israël aujourd'hui traverse encore le sommeil. Et la résurrection nationale d'Israël n'a pas encore sonné. Ézéchiel 37 est encore un temps à venir pour nous. Alors que Moïse et Élie sont le symbole pour nous des saints célestes. Moïse ayant connu la mort, donc ils seront réveillés par Christ après s'être endormi en Jésus, et Élie, traversant, sans passer par la mort, étant introduit dans le repos en attendant la gloire, c'est-à-dire ceux qui seront transmués à la rencontre du Seigneur en l'air en même temps que les morts qui ont été ressuscités. Par contre, les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, sont plutôt le symbole du résidu terrestre. Les uns et les autres prennent leur place. Le thème de cette merveilleuse conversation, c'est la mort de Christ qu'il allait accomplir à Jérusalem. C'est ce qu'il y avait évidemment devant lui, et cela nous est confirmé par le fait que le verset tout de suite après, chapitre 9, le verset 51 de Luc, il nous est dit « Il dressa sa face résolument pour monter à Jérusalem. » Maintenant, essayons de nous concentrer quelques moments, il en vaut bien la peine, puisque le centre de la scène, c'est évidemment Christ, sur la gloire de Christ. Il est transfiguré. L'expression grecque, à ma connaissance, veut dire métamorphosé, c'est-à-dire, comme pas un changement de substance, mais l'apparence de son visage a été tout à fait autre. Et son visage devient comme le soleil quand il luit dans sa force. Son visage ici en Luc est resplendissant comme un éclair. Le chapitre 17 de Luc nous donne le sens spirituel de cet éclair. Au verset 24. Luc 17, 24. Comme l'éclair qui brille, lui, de l'un des côtés de dessous le ciel jusqu'à l'autre côté de dessous le ciel, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Il a donc l'annonce d'un jugement. Il y a beaucoup de traits de comparaison entre la gloire de Christ sur la Sainte Montagne et les gloires de Christ comme Fils de l'homme dans Apocalypse 1. Dans Apocalypse 1, il y a 9 caractères et gloires de Christ d'abord, puis ensuite auxquels sont rajoutés 3 autres, qu'on retrouve d'ailleurs remarquablement dans la manière dont le Seigneur se présente à chacune des 7 assemblées auxquelles le message est adressé dans les chapitres 2 et 3. Et visiblement, c'est le caractère de Christ comme Fils de l'homme. Avant d'introduire son règne, il doit juger. Et toute autorité lui est donnée, il est le roi, mais il est le juge, parce qu'il est fils de l'homme. Il a autorité de juger parce qu'il est fils de l'homme. Il a autorité de communiquer la vie parce qu'il est fils de Dieu. Son visage devient tout autre. Le soleil comme lui dans sa force. Le soleil, c'est l'autorité suprême. Mais un jour, le soleil de justice aura la guérison dans ses ailes pour apporter le repos dans une terre qui est tellement bouleversée. Ce sera le beau moment. Avant, qu'attendons-nous? Christ, comme l'étoile brillante, l'étoile céleste, l'étoile brillante du matin. Ensuite, son vêtement est blanc et resplendissant comme un éclair. Alors ensuite, les disciples sont endormis tristes, se réveillent quand ils voient la gloire de Christ. Et l'apôtre en reparle dans sa seconde épître. Et alors, Pierre, confondant un peu les dispensations, ne chargeant pas ce cher apôtre, qui n'avait pas encore le Saint-Esprit pour le conduire et le diriger à ce moment-là, Pierre anticipe la fête des tabernacles et veut dresser des tentes, une tente, et placer le Seigneur à la même hauteur, quoiqu'en le distinguant des deux autres, à la même hauteur que Moïse et qu'Élie. Il n'était pas selon la pensée de Dieu qu'il en soit ainsi. Le Seigneur est distingué parmi tous les autres. De la même manière que le ciel a dû s'ouvrir au baptême de Jean pour faire reconnaître au monde qui était là que le Seigneur était le Fils bien-aimé du Père, ici aussi, la voix du ciel, qui est la voix du Père, présente le Fils, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Les disciples entrent dans la nuée. Il est difficile de savoir à quel moment Moïse et Élie ont disparu de la scène. En tout cas, on voit très clairement en Luc, et le récit de Luc le distingue des deux évangiles de Matthieu et de Marc, on voit très clairement en Luc que les disciples sont entrés dans la nuée et que cette nuit a un caractère que les deux autres évangiles ne signalent pas. Là, la version des Septante nous aide parce que c'est le même mot qui est utilisé dans Exode, à la fin de l'Exode, pour nous parler de la gloire de Dieu sous la forme de la nuée. C'est Exode, sauf erreur 40. Couvrez la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation car la nuée demeura dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Alors, cette gloire de l'Éternel qui est symbolisée dans le premier chapitre d'Ézéchiel, Ézéchiel 1 donc, est la présence personnelle de Dieu au milieu de son peuple terrestre. La nuée a couvert le tabernacle, la nuée plus tard couvrira le temple de Salomon le jour de sa dédicace et personne ne pouvait entrer à cause de la nuée qui remplissait de la gloire de l'Éternel, le temple saint, la maison de Dieu sur la terre. Cette gloire a quitté le temple à regret dans les 11 premiers chapitres d'Ézéchiel, revient prophétiquement dans les chapitres de la fin, 40 et suivants. Et la chose merveilleuse, c'est que la gloire de l'Éternel, vue par 5 fois de suite par le prophète, retrouvée prophétiquement à la fin du livre, elle est identifiée à l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel qui était passé, c'est l'Éternel qui était là. Donc il s'agit bien de Dieu lui-même, sa gloire céleste. Les disciples entrent avec le Seigneur. Ils partagent la même gloire que lui. Alors, soyons très attentifs à bien distinguer tout ce que l'Écriture nous dit sur les gloires variées de Christ. Il y a sa gloire morale, 2 Corinthiens 3, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par lui en esprit. Il y a sa gloire personnelle de Fils éternel du Père, de Fils de Dieu. Père, glorifie-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Cette gloire, nous ne la partageons pas, nous la contemplons avec adoration, avec admiration. Cette gloire acquise, que Christ s'est acquise par les souffrances de l'expiation, cette gloire particulière, personnelle, le Fils de l'homme, cette gloire-là, le Seigneur veut nous la faire partager. C'est un pur don de sa part. La gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée. C'est la gloire du Fils de l'homme. Cette gloire, elle est annoncée aux Grecs qui étaient montés à la fête comme anticipative dans le jour millénaire. Mais elle est déjà présente en Jean 13, 33, peut-être 32. Jean 13, dès lors, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Et si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et un continent aussi le glorifiera. Cette gloire de Christ, elle est là, dans le sein même de son abaissement. Dans la honte, a brillé ta gloire sur la croix. Cette gloire a un caractère céleste qui la présente de toute beauté ici. Luc va au-delà des dispensations terrestres. La gloire de Christ sera vue dans son royaume, dans la partie terrestre du royaume, comme dans la partie céleste.
cette partie céleste, elle sera la part des saints célestes dans la gloire. C'est la raison pour laquelle Paul, juste avant le martyr, savait très bien que Christ en grâce le conservait pour son royaume céleste. C'est pour cela que dans la gloire céleste du royaume, eh bien les justes brilleront comme le soleil dans la maison de leur Père. Les disciples terminent et tout disparaît pour ne voir plus que Jésus seul avec eux. Que le Seigneur permette que ce soit la part de chacun de nous, que tout disparaisse pour que nous ne voyons que Christ et Christ seul avec nous. Je voudrais qu'on chante le cantique 39. Si nous ne sommes pas trop fatigués, je voudrais tirer quelques conclusions sur la conduite des disciples. Lisons quelques versets dans la suite du récit de Luc 9, donc au verset 37. Luc 9, 37, il arriva le jour suivant, quand ils furent descendus de la montagne, qu'une grande foule vint à sa rencontre. Et voici un homme de la foule s'écria, « Maître, je te supplie, jette les yeux sur mon fils, car il est mon unique, et voici un esprit le saisit et soudain il crie, le déchire, le faisant écumer. » À peine s'il se retire de lui après l'avoir broyé, j'ai supplié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Et Jésus répondant dit, ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Et encore comme il approchait, le démon le renversa et le tourmenta violemment. Jésus tensa l'esprit immonde et guérit l'enfant. Elle rendit à sa mère et tous furent étonnés de la grandeur de Dieu. Alors je crois qu'il faut trouver, je crois que l'expression se trouve dans Marc. Vous voyez qu'elle se trouvait en Luc. Oui, c'est Marc. L'explication se trouve en Marc 9, versets 28 et 29. semble qu'elle n'est pas donnée dans Luc. Alors Marc 9, verset 28, « Lorsqu'il fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Et il leur dit, « Cette sorte ne peut sortir en aucune façon, si ce n'est par la prière et par le jeûne. » Alors le deuxième exemple est au verset 43 de Jean. Donc tout s'étonnait de tout ce que Jésus faisait. Le Seigneur leur dit, « Vous gardez bien ces paroles que vous avez entendues, car le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprirent pas cette parole, elle leur était cachée. Verset 46, il s'éleva au milieu d'eux une question, à savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça auprès de lui. Il leur dit, « Quiconque recevra ce petit enfant en mon nom me reçoit. Quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Et Jean, répondant, dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et nous lui avons défendu parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Et Jésus lui dit, « Ne lui défendez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Alors au verset 52, ils traversèrent un village de Samaritains pour lui préparer un logis. Ils ne le reçurent point parce que sa face était tournée vers Jérusalem. Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume comme aussi fit Élie ?» Et se tournant, il les censura fortement et dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Et ils s'allèrent dans un autre village. Je voudrais rajouter encore un autre verset, juste une seule expression, dans Matthieu 20. Matthieu 20, le verset 20. La mère des fils de Zébédée vint à lui et avec ses fils, lui rendant hommage et lui demandant quelque chose. Et il lui dit, « Que veux-tu ? » Elle dit, « Ordonne que mes deux fils que voici s'asseyent, l'un à ta droite et l'un à ta gauche dans ton royaume. » Jésus leur répondant, « Dites, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire ?» Alors quatre circonstances caractérisent la descente des disciples de la Sainte Montagne. Auparavant, il me semble que nous devons avoir toujours devant nous ce qu'a été la gloire de Christ dans ce moment merveilleux, unique, et ce que pouvait être la joie de son cœur dont il nous a parlé en Hébreux 12. À cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix et en méprisé la honte. Alors pourquoi les disciples n'ont-ils pas pu peut-être pas comprendre ou participer à cette joie, mais au moins réjouir tant soit peu le cœur de leur maître? Parce qu'ils n'étaient pas préparés pour cela et leur état moral n'était pas bon. Alors voilà pour nous l'immense et absolument essentielle leçon que le Seigneur veut nous rappeler. C'est une chose essentielle, heureuse, indispensable pour l'équilibre de notre vie chrétienne de considérer, de contempler Christ par la foi. Mais l'essentiel de notre vie, elle se déroule dans la plaine et pas sur la montagne. Il ne suffit pas d'avoir contemplé Christ un jour, dans des moments merveilleux, et je suis sûr que nous jouissons tous ensemble de la présence de Christ ce soir. Il ne suffit pas d'être élevé, pour ainsi dire, comme au-dessus, en dehors de nous-mêmes. Après, il faut vivre avec les forces que Christ nous donne, en étant méfiant à l'égard de nous-mêmes et conscient des dangers qui nous entourent. Voilà la leçon que les disciples nous enseignent par le côté négatif de leurs erreurs. Mais ne les chargeons pas. D'abord parce qu'à leur place, nous n'aurions pas fait mieux, et qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus coupables qu'eux, parce que nous avons le Saint-Esprit, eux, qui ne l'avaient pas à ce moment-là. Et la croix de Christ a révélé notre état que les disciples ne comprenaient absolument pas. La première circonstance, donc, est l'incapacité des neuf en bas sur la plaine, qui a été, je crois, confirmée par la présence des trois qui sont redescendus de la montagne, à chasser un démon. Alors le Seigneur leur explique pourquoi. Cette sorte ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. La prière, c'est l'expression de la dépendance de Dieu, et le jeûne, c'est l'expression de l'absence de recherche de ce qui entretient, de ce qui anime, de ce qui alimente la chair qui est en nous, c'est-à-dire être sobre en toute chose. L'esprit de prière et de dépendance est l'esprit de sobriété. Voilà ce qui nous manque souvent et qui nous empêche non pas d'accomplir un miracle, de chasser des démons, mais pratiquement d'avoir la victoire, ne serait-ce que dans la vie quotidienne, sur les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes et qui cherchent à nous ravir la valeur de notre héritage et la jouissance des choses célestes que nous avons en Christ. Voilà la première chose. Regardez la différence entre ce que pouvait être la joie de Christ sur la Sainte Montagne et puis la manière dont les disciples l'ont navré, l'ont peiné. Ô génération incrédule, je ne crois pas qu'il y ait dans les évangiles une censure aussi forte que celle-là. Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je? Le seul autre reproche solennel que le Seigneur a adressé à ses disciples, c'est après le jour de la résurrection, lorsqu'ils n'ont pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. C'est-à-dire refuser le témoignage oculaire de ceux qui avaient vu Christ ressuscité, ça c'était vraiment une faute que le Seigneur devait souligner chez ses disciples. La deuxième chose, c'est la contestation. Je crois que nous n'aurons aucune peine à nous retrouver dans cette scène. Dans cette scène, elle a eu sa contrepartie dans un moment encore plus solennel. C'est au jour même où le Seigneur institue le souvenir de son mémorial, le souvenir de sa souffrance. Ici, les disciples venaient de voir Christ sur la Sainte Montagne. Ils s'élèvent au milieu d'une querelle, une contestation, à savoir lequel serait le plus grand. Alors on retrouve au chapitre 22, verset 24, c'est presque les mêmes expressions. Il arriva aussi une contestation entre eux, pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Verset 27. Lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mais vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. Une chose que nous avons à apprendre de cette seconde circonstance des disciples, c'est d'apprendre l'esprit d'humilité. Ne pas se contester les uns les autres pour savoir lequel serait le plus grand. Au contraire, savoir estimer mon frère supérieur à moi-même dans l'amour. Chacun ne regardait pas à ce qui est à soi, mais à ce qui est aux autres. Qu'il y ait donc en vous cette pensée, celle du serviteur humble, débonnaire, celle du vrai serviteur de l'Éternel. La gloire d'un serviteur, c'est de servir. Ce n'est pas d'être servi, et de ne pas se placer au-dessus de celui qu'il sert ou de ceux qu'il sert. Cette contestation, elle est confirmée par l'attitude spéciale de Jacques et de Jean et de leur mère. Jacques et Jean étaient donc les deux fils de Zébédée, et leur mère va jusqu'au Seigneur et demande pour ses fils une place spéciale. Si la gloire leur avait été accordée sur la Sainte Montagne, peut-être qu'il y aura un honneur spécial qui sera accordé plus tard dans le royaume. C'est une chose qui est complètement hors de place. Alors que fait le Seigneur Jésus? Et là, il est notre modèle. Il ne leur reproche rien, contrairement à la première situation. Il leur dit simplement, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes tentations. Puis il va annoncer, dans une grâce parfaite, à Pierre, la terrible épreuve qu'il attendait avant même que la nuit s'achève. C'est au chant du coq. On était déjà le soir. On était déjà probablement à 9h du soir dans ce souper. Quelques heures plus tard, Pierre allait découvrir ce qu'il était. Il n'aurait peut-être plus envie de se placer au-dessus des autres. La conscience de nos misères et de nos faiblesses doit nous amener d'un côté à plus d'humilité et à plus de compassion à l'égard de nos frères. Voilà les deux choses que cette seconde circonstance nous enseigne. Ensuite, je ne sais pas très bien comment l'expliquer, c'est l'intolérance ecclésiastique. Il y a peut-être un meilleur mot, peut-être que les frères trouveront plus que moi. C'est la troisième circonstance, c'est celle qui anime Jean. Verset 49. Jean répondant dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et nous lui avons défendu parce qu'il ne te suit pas avec nous. » C'est quelque chose de comparable à ce que Moïse, lorsqu'il entend Eldad et Medad qui prophétisaient au milieu du camp, et que Josué voulait l'arrêter, « Non, non, mais plût à Dieu que tous prophétisent. Nous n'avons pas le privilège exclusif de la pensée de Dieu. Et si le Seigneur choisit des instruments de son choix, bien nous sommes heureux. L'essentiel, c'est que le travail soit fait. » Ceci dit en passant, il n'est évidemment jamais question de justifier la fin par les moyens. On ne justifie pas les moyens que le Seigneur ou la morale même réprouve parce qu'on suit une bonne cause. Mais le Seigneur est souverain dans les choix qu'il utilise et dans les dons qu'il confie aux uns et aux autres. Et qui sommes-nous pour demander des comptes au Seigneur qui est souverain? C'était complètement hors de place pour Jean de défendre. Pourquoi? Parce qu'il ne marchait pas avec nous. Mais le temps n'était pas à cela. Le temps était si solennel, si grave, que le Seigneur lui dit « Mais ne leur défendez pas, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » L'expression se retrouve plusieurs autres fois dans les évangiles. La quatrième circonstance est aussi importante pour nous. C'est là encore Jacques et Jean qui par ailleurs ont eu tellement de côtés positifs dans leur enseignement, dans leur ministère et dans leur vie personnelle, mais là ils apparaissent comme étrangers à la pensée de leur maître. Ce n'est plus la contestation les uns à l'égard des autres, ce n'est plus le pouvoir qu'on veut garder de la part de Christ uniquement pour soi, c'est-à-dire l'étroitesse de cœur ecclésiastique. En fait, c'est un orgueil collectif ici. Mais là, c'est autre chose. C'est l'esprit de grâce qui est complètement absent. Il est plus facile pour notre cœur naturel de juger que de pardonner. Il est plus facile, surtout quand on a quelque autorité que ce soit, regardez, il n'y a pas d'exception dans les autorités de ce monde. Personne ne peut supporter l'élévation. Et tout le monde use de l'autorité qui lui est confiée d'une manière injuste, sauf Christ lui-même, qui est le seul qui allie en perfection la justice et le jugement qui forment les bases de son trône. Autrement, tous les hommes usent mal de l'autorité qui peuvent leur être confiée. Ici, il était bien clair que les Samaritains ne recevaient pas le Seigneur, c'était la pensée de Christ qui s'accomplissait, puisqu'il montait à Jérusalem et rien ne l'arrêtait dans cette œuvre qu'il attendait à Jérusalem. Les Samaritains étaient avec des instruments sans même le comprendre. Et Jacques et Jean ne l'ont pas compris. Alors il était facile d'appeler le feu du ciel. Veux-tu que nous appelions le feu du ciel comme Élie? Mais on n'en était plus au miracle de jugement d'Élie, on en était à la parole de grâce d'Élisée. Parce que rappelez-vous que Élie, pour quitter la terre sans passer par la mort, est sorti de la terre d'Israël, son ministère était de ce point de vue-là terminé. Il n'avait pas réussi à ramener le cœur du peuple vers Dieu. Mais Élisée sort de la terre d'Israël pour accompagner son maître, et revient, jetant le manteau d'Élisée pour couper les eaux du Jourdain, revient sur la terre d'Israël pour y apporter le message de la grâce. Et il est assez clair que tout le message de l'évangile de Luc est le message de la grâce et non pas celui du jugement. Vous ne savez pas donc de quel esprit vous êtes animé. Alors que le Seigneur nous aide à mieux comprendre ce qu'est la grâce de Christ, et à utiliser de la grâce les uns à l'égard des autres dans le support mutuel et dans le support mutuel et dans l'esprit de pardon. C'est d'ailleurs un des caractères du royaume des cieux dans la parabole de Matthieu 18. Donc ces quatre circonstances nous montrent que le vrai danger, il n'est pas sur la montagne, il est quand on est redescendu sur la montagne dans la plaine et qu'il faut vivre avec soi-même et avec les autres. Alors je voudrais terminer sur une chose qui nous donnera peut-être la clé de tout cela, c'est l'exemple personnel de Paul. Il n'apparaît pas sur la sainte montagne. Un frère a rappelé hier qu'il était jeune homme lorsqu'on lapidait Étienne. Il se préparait à faire les gueules ouvertes à Dieu et à son peuple, avant d'être touché par la grâce sur le chemin de Damas. Alors s'il n'a pas connu Christ selon la chair, il a eu une vision glorieuse qui lui est personnelle et qui nous est rapportée dans ce passage merveilleux de 2 Corinthiens 12. Je pense que vous retrouverez sans aucune difficulté beaucoup de traits de comparaison et d'analogie entre la scène de la transfiguration et la conduite des disciples à la descente de la montagne, et puis entre les séquences qui nous sont données dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, c'est pour ainsi dire Paul qui va au-delà de la sainte montagne puisqu'il entre dans le ciel même, dans le troisième ciel, dans le paradis de Dieu, là où est le brigand repentant. Puis la fin du chapitre 12, 2 Corinthiens 12, versets 19 à 21, c'est presque pire que les disciples. C'est toutes sortes de choses qui encore dans l'église de Corinthe n'avaient pas été jugées dans le détail et qui étaient une tâche pour l'assemblée. Puis entre les deux, c'est le chemin de Paul. Le danger pour Paul n'était pas d'être sur la montagne, mais d'y avoir été. Et je crois que ce qui conduisait les disciples à avoir péché 4 fois de suite, c'était finalement la pensée de supériorité qui les animait, parce que ce qui leur avait été accordé était un honneur spécial qui les distinguait des 9 autres, et ce qui les distinguait de toute la population des 70, des autres 12 et des 70, et de tous ceux qui les entouraient. Ils étaient les privilégiés. Paul aurait pu penser qu'en fait, personne d'autre, aucun chrétien, n'a vu cet honneur qui lui avait été particulièrement réservé pour le soutenir dans son service. Alors le Seigneur, en grâce parfaite, va lui envoyer une écharpe. Ce qu'est l'écharpe dans le détail ne nous intéresse pas et n'est pas pour nous un objet de foi. C'était quelque chose qui le rendait humble à ses propres yeux, méprisable peut-être même aux yeux des autres, lorsqu'il accomplissait son service. C'est-à-dire, plus il était fidèle pour accomplir son service pour Christ, dans la sincère sollicitude pour toutes les assemblées, en prêchant sans relâche le royaume de Dieu à tous ceux qu'il rencontrait. Là, il était ramené aux réalités terribles de la vie que nous sommes dans une enveloppe de faiblesse et qu'il n'avait aucune puissance par lui-même. 3 fois, il a demandé au Seigneur d'être délivré de cette écharpe, qui lui a probablement été réservée pendant 14 ans. C'est long, 14 ans dans la vie d'un homme. Et c'est beaucoup de demander trois fois. Le Seigneur lui a répondu autrement. Et la véritable réponse du Seigneur, c'est la beauté de la grâce de Christ. Deux choses. Ma grâce suffit, ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Frères et sœurs, je n'oublierai jamais le dernier message que j'ai reçu d'un frère que j'aimais énormément en Amérique, qui est mort d'un cancer. Il m'a dit, ma grâce suffit, on comprend assez facilement. Mais il faut toute l'expérience d'une longue vie chrétienne pour apprendre que la puissance de Christ s'accomplit dans l'infirmité. Et tout est changé. Quand on a fini d'avoir fond sur soi-même, on ne se comparera pas aux autres. On n'avalera pas le feu du ciel sur ceux qu'on considère comme des intolérables. On aura la capacité, en marchant dans la prière et dans le jeûne, d'accomplir quelque chose pour Christ, même si ça n'a que peu de valeur aux yeux des hommes. En définitive, c'est la beauté de la vie chrétienne. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à mieux le saisir, avant qu'il soit trop tard. De toute manière, ce que nous attendons, c'est la délivrance, d'être avec Christ, pour le voir comme il est, dans sa beauté incomparable, et les blessures des mains.